J'ai des choses à dire sur Note. tous les reproches que je pouvais faire à Note, quelque part, ils me les ont résolus, puisque ils ont pris toutes les fonctions de Bear et ils me les ont mis dans Note.
Je fais une parenthèse très rapide là-dessus, mais j'ai l'impression qu'ils ont tué plusieurs petites entreprises, là, avec iOS 15, iPadOS 15 aussi. Enfin, entre la continuité, tu sais, des appareils sur le Mac, qui était le rôle d'une autre application dont j'ai oublié le nom.
Ah, ils ont charloqué du monde, ils ont charloqué... avec Note, ils ont de toute manière charloqué pas mal de monde, ne serait-ce que Bear ou les trucs comme ça, parce que ils leur ont piqué toutes leurs fonctions avancées. Avec les fonctions d'OCR, ils ont le premier développeur qui a réagi, je pense, c'est Créacid pour Prismo. Ils ont charloqué toutes les petites applications qui servaient à passer d'un bureau à l'autre, ou à utiliser plusieurs écrans, ou à utiliser AirPlay sur Mac. Enfin, il y a eu de la casse. Mais j'ai envie de dire, c'est le jeu, ma bonne dame, quoi. C'est leur plateforme, et au bout d'un moment, ils la poussent, et des choses qui relevaient de l'innovation d'un développeur tiers deviennent tellement évidentes qu'elles sont incorporées à la plateforme. Et dans le cas de Prismo, je comprends qu'il ait réagi, et qu'il ait réagi de manière un peu épidermique, et en même temps, c'est son caractère, mais quelque part, c'est aussi une opportunité, au sens original du terme, pour lui, parce que il a une occasion à saisir. Les fonctions de base de son application appartiennent maintenant à l'OS, et il faut qu'il aille plus loin.
J'allais dire de manière très droite libérale, ce qui me caractérise, comme tu le sais, que oui, effectivement, enfin c'est comme ça que je vois les choses de ma petite fenêtre de bourgeois, c'est que t'as ce mastodonte qui s'accapare tes fonctions de base, c'est l'occasion de, alors si t'as l'esprit combatif aussi, il faut avoir envie de le faire bien sûr, hein, mais bon, t'as l'occasion d'aller plus loin en fait. La manière dont le fait Apple est jamais exemple de défaut. Enfin, on en parlait dans le dernier épisode. C'est y a quand même des trous, quoi. Donc y a toujours quelque chose à faire.
Et surtout, une fonction qui était obscure, parce que c'était une fonction d'une application tierce, devient une application qui est utilisée par tout le monde, parce que c'est une application du système. Et donc, une application comme Prismo, qui utilisait Prismo ? Elle est géniale, cette app, et je l'utilise, et je l'utilise beaucoup, mais au final, très peu de monde utilise les applications d'OCR. Et aujourd'hui, c'est une fonction de base de l'OS. Et donc, les gens, quand ils vont se retrouver confrontés aux limites de la fonction de l'OS parce qu'elle ne peut pas tout faire, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller chercher les apps tierces qui en font plus. Et donc, oui, c'est chiant de se faire charloquer, mais c'est aussi une occasion de rebondir.
Je me rends compte que je n'ai pas commencé par la base, mais toi, tu n'as pas regardé le keynote en tant que spectateur, tu l'as regardé en tant que journaliste. Qu'est-ce que tu en as pensé quand même en termes d'émotion, en termes enfin, autant que tu puisses être spectateur, qu'est-ce que tu en as pensé ?
J'ai pas été très, très convaincu par les blagues cette fois-ci.
Ouais, je suis d'accord.
Je les ai trouvées assez mauvaises. Et puis cette obsession assez malsaine d'Apple avec les emojis commence à sérieusement me taper sur le système.
Mimoji, tu veux dire ?
Oui. Oui, les Mimoji, oui. Non, après, c'est intéressant parce que quelque part, donc l'an dernier, la WWDC 2020, c'était le premier keynote préenregistré. Et donc, c'était le premier keynote de l'ère Covid, avec cette mise en scène, Tim Cook qui monte sur scène tout seul, le Steve Jobs Theater est entièrement vide, et ils mettent en scène l'immensité du désert de l'Apple Park. Et un an plus tard, quelque part, c'est... C'est le premier keynote de l'après. De la même manière, Tim Cook rentre sur scène sur le Steve Jobs Theater, mais il est plein de Mimoji.
Ce qui était plutôt terrifiant, j'ai trouvé.
Oui, mais quelque part, c'est intéressant. Ça y est, on commence à rouvrir.
Oui.
Et si on regarde, si on analyse la mise en scène de manière un peu pointue, on le voit, hein, quand on regarde le keynote de l'an dernier, il n'y a aucun sous-entendu que des personnes sont dans la même pièce. Quand tu passes d'une personne à l'autre, tu passes d'une pièce à l'autre. Cette année, tu as la mise en scène de plusieurs personnes ensemble dans une même pièce. Et c'est subtil, mais ça, le message que ça fait passer, c'est on rouvre. Ça y est, c'est reparti. Et la question que ça me pose, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire dans les mois qui viennent pour les prochains keynotes ? Est-ce qu'on revient au statu quo ante et on se remet à faire des keynotes comme avant ? Ou est-ce qu'on trouve une formule, comme je disais la semaine dernière, où on réussit à trouver de la place pour la presse, y compris les salariés d'Apple, parce que c'est important d'avoir des gens qui sont contents et qui tapent dans les mains, tout en gardant ce grand contrôle que leur donne la présentation préenregistrée. Là, les blagues que fait Federighi, par exemple, elles sont impossibles à faire pendant un vrai
Oui.
keynote. Il faut qu'ils soient préenregistrés. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire et comment ils vont le faire? Je crois que ça va être super intéressant à regarder. Parce qu'il y a moyen
Combiner un peu les deux.
de combiner un peu les deux, et puis aussi moyen, quelque part, de réinventer l'exercice du keynote et de définitivement s'éloigner du modèle Jobs et de dire ça y est, bon, Jobs c'est fini, le keynote linéaire qui tient autour de la personnalité de Jobs, on s'en débarrasse et on fait quelque chose d'autre. Et on fait quelque chose de, non pas seulement de nouveau, mais qui colle aussi à l'identité et au message d'Apple aujourd'hui.
Oui, je suis d'accord avec toi que de toute façon, le keynote, enfin, dans un sens, c'est presque providentiel. Le keynote, le format précédent en tout cas, n'était plus du tout adapté à la nouvelle Apple. Il y avait une succession d'interlocuteurs très forte, beaucoup de gens différents sur scène, une grande diversité dans les présentateurs. Et puis bon, il faut dire aussi ce qu'il y a, Tim Cook n'a pas le charisme de Jobs, quoi, donc forcément, c'était de base, ça devait être différent, quoi. Oui, ça va être intéressant. Donc, on va dire septembre pour le prochain.
Oui, la rentrée, oui.
Bon, de mon côté, j'étais un peu déçu. Enfin, le keynote du WWDC, entre nous, je ne savais pas que ça s'appelait DubDub entre initiés, donc j'ai appris ça, ce keynote-là. Je suis un peu un noob. J'ai trouvé plus poussif. Et puis, Federighi ne faisait. Enfin. Il réussit toujours, enfin, globalement, à emmener les gens avec lui. Et là, je le trouvais plus faux qu'autre chose, avec des phrases un peu à l'emporte-pièce, des grands principes, tu vois, genre, c'est génial pour vous, vous savez, avec un regard caméra très, tu sais, les dents toutes blanches qui sourient, ce genre de choses. Et c'était, j'avais pas trop envie d'y croire. Mais non, sinon, enfin, les nouveautés en soi sont plutôt intéressantes. iOS 15, c'est pas mal. Ça Je me suis rendu compte que ça avait réussi parce que quand j'ai regardé mon iPhone, je me suis dit qu'il était vieux.
Mais tu vois, la semaine dernière, toi et moi, on s'est presque engueulé autour de messages et des fonctions sociales.
On est venu aux mains, on était à ça d'en venir aux mains, Anthony,
Et
c'était dramatique.
à tel point que toute une partie a été coupée au montage. Mais c'est intéressant parce que d'abord j'avais raison. Non, mais c'est beau, ils ont fait des fonctions sociales sans réseau social.
Ouais.
Et c'était ce que je disais, quoi. Apple, c'est un fournisseur d'identité. Et de la même manière que ils concurrencent Google sans faire de moteur de recherche. Avec Siri, les suggestions Siri dans Safari, la proactivité de certains résultats, des choses comme ça, ils sont capables de faire des fonctions sociales et de faire du réseau social très tangible dans le cas présent sans refaire Facebook. Et d'ailleurs, c'est des nouveautés qui sont intéressantes, les nouveautés autour de FaceTime et de SharePlay, parce que c'est pas très innovant.
C'est un peu le. Tu t'as vu Google Maps, enfin, pardon, Apple Maps. Le lapsus, c'est rigolo. Quand on voit la Terre de loin, ça t'a fait immédiatement, j'imagine, penser à Google Earth de 2001, tu sais. Et tu vois la Terre en version spatiale. C'est la même sensation pour moi que FaceTime qui permet de faire des réunions.
Oui, mais ça, je trouve ça innovant parce qu'il y a plein de choses qui font dans Plan que tu ne trouves nulle part ailleurs.
Oui, c'est vrai,
Notamment la
c'est vrai,
gestion de
c'est vrai.
l'occlusion, la 3D vue de voiture, des choses comme ça. Où là, j'ai presque l'impression qu'ils sont passés devant Google, quelque part. Alors, dans une demi-douzaine de villes de la planète, on est bien d'accord, mais je trouve ça très. Pour une boîte qu'on disait absolument incapable de faire de la cartographie, je trouve ça quand même assez fantastique. Mais là, FaceTime et SharePlay. Tout ce qu'il y a dans FaceTime, c'est ce que j'avais dit la semaine dernière qu'il fallait le mettre dans FaceTime. En partant du principe qu'il faut faire Zoom. Et tu sais quoi? Ils ont fait Zoom. Les liens d'invitation, la capacité de rejoindre depuis le web, chose que Jobs avait promis dès le départ. Et ils avaient été emmerdés par un procès, donc. Mais
Ah oui, c'est vrai,
enfin.
le patent troll. Oui.
Donc enfin, on y est. Et la fonction SharePlay, non seulement les gens qui utilisent Disney+ connaissent déjà ce genre de fonction.
Ah,
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas de l'innovation au sens premier du terme, mais ils surfent sur le contexte et ils le font très bien. Et là, c'est vraiment, bah, y a un besoin, c'est facile d'y répondre, on le fait. Point. Ils pouvaient pas le faire l'an dernier parce que c'était trop tôt, on peut pas faire ce genre de fonction en 4 mois. Mais c'est là cette année, quoi. Et c'est bien, ça va être vachement bien. c'est utile.
C'est super utile. Tu penses, tu vois une application FaceTime à proprement parler dans Android ?
Non, 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 c'est du web, c'est clair et net. Et d'ailleurs, c'est marrant, hein, tu ne peux pas initier un appel FaceTime depuis le web, tu peux rejoindre un appel FaceTime depuis le web.
Ouais.
Donc là, pour eux, c'est très clair, FaceTime n'est pas une plateforme.
Ouais. Et je me suis posé la question, justement, la diffusion de contenu Apple Music, par exemple, par FaceTime, enfin par SharePlay. Peut se faire sur des enfin depuis un produit qui a Apple Music bien sûr, mais ensuite ça peut être diffusé à des gens qui n'ont pas Apple Music, on est d'accord.
Là où c'est redoutable, c'est que pour plein de choses, il faut que tout le monde ait un abonnement.
Oh, mais non.
Et donc c'est pour ça qu'il y a une API, et c'est pour ça qu'à mon avis ça va être assez rapidement adopté par plein de monde, parce que par exemple si tu veux partager Disney Plus au hasard parce qu'il est sur le, il est sur la slide, il faudra que tout le monde ait un abonnement Disney Plus. Et donc c'est aussi un moyen pour eux de vendre des abonnements des développeurs tiers et donc de prendre leur 30% ou leur 15% au passage. Voilà, voilà, voilà.
Ils sont un peu fortiches quand même. Hein.
Ah, ils sont malins, hein. C'est pas la boîte la plus riche de la planète pour rien. Hein.
En parlant de boîte maligne, moi ce qui m'a frappé c'est qu'ils parlaient d'intelligence plutôt que d'intelligence artificielle. On a vraiment, il y a un petit glissement sémantique, c'était pas en soi... non plus la révolution de l'année, mais j'ai trouvé le glissement intéressant, qu'on s'affranchisse du côté artificiel, c'est juste l'intelligence maintenant qui fonctionne. Tu vois, comme si c'était elle-même, cette intelligence, un service. Enfin, ça l'est déjà, tu vois, mais ça humanise quand même vachement le produit, je trouve.
Ouais, en même temps, ce mot a tellement jamais voulu rien dire que pourquoi pas. Mais ils ont redéfini des mots, hein. Ils ont redéfini pas mal de mots. Ils ont redéfini... Ils ont parlé de réalité augmentée sans jamais parler... de vision, par exemple. Hein, où j'ai entendu des gens assez naïfs, le soir même, nous expliquer à Apple, tiens, c'est marrant, ils n'ont pas parlé de réalité augmentée. Si tu sors du keynote et que tu penses qu'Apple n'a pas parlé de réalité augmentée, arrête. Supprime. Parce qu'en fait, ils ont passé une heure et demie à parler de réalité augmentée. Ça n'est que ça. SharePlay, c'est déjà de la réalité augmentée, quoi. Et surtout, ils ont beaucoup parlé de spatialisation sonore, donc à la fois dans SharePlay, mais aussi pour Apple Music, puisque dans la foulée, ils ont lancé le Lossless et le Dolby Atmos dans Apple Music. Ça, c'est de la réalité augmentée, la spatialisation. C'est un cornerstone, comme ils disent en anglais, c'est une pièce maîtresse du dispositif de réalité augmentée. Être capable de changer ton environnement sonore, de reprojeter ton environnement sonore en trois dimensions autour de toi. Être capable d'annoncer les notifications avec Siri. Donc, tu as des AirPods dans les oreilles et le contenu qui est dans ta poche vient dans tes oreilles. Mmh. La fonction qu'ils ont montrée dans le passage sur l'inclusivité avec où ça booste le volume sonore d'une conversation. De manière très littérale, on change ta perception sonore. On augmente ton ouïe. Si ça, c'est pas là de la réalité augmentée, je ne sais pas ce que c'est que la réalité augmentée. Mais en même temps, c'est marrant parce que voilà, on te parle d'autre chose que de cette vision un peu cliché de la réalité augmentée qui est un casque ou des lunettes sur les yeux. C'est pas que ça, c'est aussi changer le rapport à tous nos sens, donc changer le rapport au toucher, changer le rapport avec le retour haptique, avec des choses comme ça. Ou avec, on le voit là, la possibilité de contrôler l'Apple Watch sans toucher l'Apple Watch, juste avec des gestes de pincement des doigts. C'est changer l'audition, c'est changer plein de choses comme ça. C'est vraiment intéressant. Ils ont changé le sens du mot multitâche, bordel.
Là, il faut que tu développes, par contre.
Maintenant que l'iPad est capable de gérer plusieurs applications à la fois, on n'est plus seulement sur du multitâche parallèle comme avant, où on pouvait passer d'une application à l'autre et les applications restent en arrière-plan. Là, on est vraiment sur du multitâche comme on fait sur Mac, avec plusieurs fenêtres. En plus, ils ont un peu simplifié l'interface. Donc,
enfin.
Donc bon, on est vraiment sur du multitâche au sens traditionnel. Donc du coup, l'iPad, c'est l'appareil qui te permet d'utiliser plusieurs applications de front. Le Mac, c'est l'appareil qui te permet d'utiliser plusieurs appareils à la fois. Et donc, on te redéfinit subtilement le partage du monde entre les deux plateformes, et au passage, on te redéfinit la notion même de multitâche. C'est-à-dire, tu veux travailler sur un seul appareil, utilise l'iPad. Tu veux être le maître du monde qui contrôle toute ta baraque, utilise le Mac. Je trouve ça assez futé de leur part, parce qu'accessoirement, c'est une bonne manière de...
De redonner au Mac en fait une seconde jeunesse.
Ouais, et puis de pas faire insulte à l'avenir. Parce qu'ils se laissent, ils se laissent du mou, là, hein, ils se laissent de la place.
Oui, on sent qu'il y a les 10 ans à venir qui sont déjà écrits. Ouais. Enfin, déjà, comment dire, c'est ouvert, quoi.
On parlait toi et moi la semaine dernière de Xcode. Il n'y a pas Xcode sur iPad, mais enfin, Swift Playgrounds est capable de soumettre des applications Swift UI à l'App Store. L'iPad est un ordinateur. Ouais, il y a des mots qui ont changé là chez Apple.
Ouais, il y a un glissement philosophique, en fait. Est-ce que je me souviens dans une conversation qu'on avait hors podcast il y a quelques années, tu me disais, je crois que c'était avant, enfin on parlait déjà de réalité augmentée, mais c'était vraiment embryonnaire et tout ça. Et tu me disais, bah, l'avenir quand même de l'informatique, l'avenir d'Apple n'a pas l'air extrêmement excitant, quoi. Je préférerais retourner, je préférerais aller élever des brebis dans le Larzac plutôt que continuer à faire ce métier si ça continue dans cette direction-là. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui?
Oh, je pense fondamentalement la même chose parce que. Non, mais très sérieusement, parce que je suis persuadé que l'avenir de l'informatique, comme le disait très bien Steve Jobs avant de clamser, est à la frontière de la biologie et de l'informatique, et ce sera sans moi.
Mais à quel moment tu mets la barrière, si tu veux?
Je vais être très très gêné quand ils vont commencer à commercialiser des lunettes. La phrase apocryphe de Steve Wozniak qui est ne faites jamais confiance à un ordinateur que vous pouvez pas acheter par la fenêtre. Apocryphe mais très vrai.
Très vrai.
Et quelque part c'est quelque chose que j'ai complètement intégré quoi. Je suis pas le plus grand amateur de l'Apple Watch parce que j'ai des montres que j'aime beaucoup, mais enfin je porte l'Apple Watch. Je porte l'Apple Watch parce que je peux enlever l'Apple Watch. J'ai pas besoin de savoir l'heure. Le jour où Apple sort des lunettes, je suis emmerdé parce que j'ai besoin de lunettes. J'ai besoin de lunettes pour voir. Si Apple sort des lunettes, en quelques années, toutes les lunettes vont être informatisées. Et ça deviendra de la même manière qu'avoir un smartphone aujourd'hui, c'est quasiment un prérequis. Et on le voit d'ailleurs ces jours-ci avec l'instauration du pass sanitaire ou des choses comme ça, où on part du principe que tu as un smartphone et que. Même s'il y a le backup, le fallback du pass sanitaire papier, le fait est que le système est conçu pour des gens qui ont un smartphone. De la même manière qu'aujourd'hui, donc le smartphone c'est un
Très
prérequis,
clairement.
on peut imaginer un monde dans 15-20 ans où les lunettes connectées seront un truc requis, et donc c'est un ordinateur qu'on ne peut pas acheter par la fenêtre.
Techniquement, le smartphone est déjà un ordinateur que tu peux acheter par la fenêtre.
Mon iPhone, là maintenant tout de suite, est éteint.
Ah.
Et contrairement à des millions de Français, ça me va très bien. Et j'ai pas des sueurs froides quand mon iPhone tombe en panne de batterie. Mais les lunettes, j'en ai besoin. Je ne vois pas, je suis aveugle d'un œil si j'ai pas des lunettes, quoi. Donc bon.
Donc t'arrêtes ce métier dans 3 ans.
Non, mais je suis, enfin, mais c'est quelque chose dont je parle depuis des années. J'avais écrit originellement sur Google Glass. À ce sujet-là, mais ça s'applique à Apple, hein. C'est pas parce que c'est Apple que soudainement ce raisonnement ne s'applique plus. Je suis très content d'être un spectateur de la chose. Je suis fasciné par ce que j'appelle les ordinateurs, donc les AirPods et les choses comme ça. Je suis fasciné par la manière dont l'Apple Watch peut changer ton rapport à l'informatique et où on augmente déjà ton toucher, hein, parce que les petites vibrations au poignet. Moi, j'adore voir mes collègues se lever dans une espèce de réflexe pavlovien à 50 à chaque heure parce que l'Apple Watch leur demande de se lever.
C'est l'heure du bim.
Et parfois, d'ailleurs, ils se lèvent à 49 et 58 secondes, quoi. Donc, tu sens que c'est quelque chose c'est devenu une horloge biologique, quoi. Donc, tout ça, je trouve ça fascinant. Je trouve fascinant de voir Apple réfléchir à voix haute à la réalité augmentée et avancer très très vite sur le sujet-là. Je suis aussi un peu désespéré de voir venir la fin de ma première carrière. Mais c'est pas grave. Mais enfin, en attendant la fin de ma carrière, Safari, bon.
Alors, j'ai l'impression que tu aimes bien.
Je sais pas.
Bon, alors, attends. Il faut que tu m'expliques. Parce que moi, quand j'ai vu Metro Zen Dodo resplendissant dans cette fenêtre magnifique, Je me suis dit, mais comment tu peux ne pas aimer de manière non équivoque?
J'aime beaucoup le violet, mais enfin quand même. Enfin, c'est comme Mac G, quoi. T'ouvres Mac G, Safari devient orange, mais genre orange, ça te fait saigner la rétine, quoi. Alors, c'est notre faute, hein, parce que c'est le développeur web qui choisit la couleur, mais je sais pas si c'est une réaction épidermique de vieux cons, la résistance au changement, ou si c'est. Et donc, il va falloir s'y habituer, ou si c'est vraiment un truc plus fonctionnel, mais je sais pas, je suis encore réservé. J'ai écrit aujourd'hui que c'était le navigateur pour la génération Pinterest. Depuis 3 jours, ça me fait penser à Pinterest. C'est peut-être les bords arrondis, les aplats de couleurs, même la gestion des onglets par groupe, des choses comme ça.
Et puis tous les exemples qu'ils ont donnés étaient très Pinterest, faut dire ce qui est.
C'est vrai. Et
C'était
d'ailleurs, c'est marrant,
ah
tous les sites qu'ils ont montrés, c'est des sites avec des couleurs pastel, comme de Zara Par.
ouais. Oui, c'est vrai, c'est un bon exemple ça.
Mais je sais pas encore quoi en penser.
Est-ce que dans les décisions de design récentes d'Apple, j'inclus les Bitmojis dedans? Et Safari du coup? Est-ce que quelque chose de plus profond te mettrait mal à l'aise, peut-être?
Non, 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 je.
Je suis un peu psy là, tu sais, genre, tu veux te mettre dans le divan, vas-y, raconte-moi
Bah,
tout.
j'attends la facture. Non, non, je vois où ils veulent aller. C'est ça le plus incroyable. Mais de la même manière que je me suis fait au côté un peu plastique, un peu synthétique, un peu. Le plastique, c'est fantastique de macOS Big Sur, je me ferai à Safari. Hein, c'est pas, j'en ai aucun doute. Hein. Mais je ne suis pas sûr d'apprécier. Alors, il y a plein de mots qui volent pour essayer de désigner ce courant esthétique. Je ne suis pas sûr d'aimer ce courant esthétique. Pour moi, l'icône de message ou l'icône de mail, c'est dans macOS, c'est une certaine vision de l'enfer esthétique.
Ah oui, rien que ça, tranquille.
Non, mais c'est moche. Enfin, mais c'est épidermique, là. Hein. Enfin, c'est moche. D'un point de vue purement esthétique, mais en plus, si je voulais faire une vraie déconstruction design, enfin, ça marche pas, quoi. Il n'y a rien qui va d'un point de vue physique, d'un point de vue tangibilité. Et c'est un peu pareil dans Safari, quoi. Quelque part, il n'y a rien qui va. Enfin, ça, il y a un mélange de métaphores et quelque part, ça casse dans mon cerveau. Mais je ferai abstraction. Enfin, je pense que si j'arrive à faire abstraction, ça marchera très bien. Et les groupes, c'est fantastique. Hein. Moi, je suis très heureux de revoir OmniWeb. De la même manière que iOS, chaque année, pille un peu les idées de WebOS et qu'on va finir par réussir à ressusciter WebOS. On va.
Ouais, je désespère pas, on va y arriver.
On va finir par réussir à ressusciter OmniWeb, je crois. Parce que c'est pareil. Les navigateurs, chaque année ou presque, pillent Opera et OmniWeb.
C'est un peu, ouais, c'est un peu les deux boulies, enfin les deux bolides de la cour de récré, ouais.
Mais donc, t'as pas ton MacBook Pro?
Non, c'est vrai. C'est vrai. Je vais devoir prendre un iMac, tant pis, hein. J'ai pas le choix. C'est l'achat que j'ai. Enfin. En plus, la livraison est dans 10 000 ans. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Moi, je mets tellement de temps à me décider que j'ai envie que ce soit dispo tout de suite, tu comprends? Enfin, c'est. Mais ouais.
Oui, malheureusement, ça aurait pas été beaucoup mieux s'ils avaient annoncé MacBook Pro 16 pouces. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas ce qui a joué dans la décision de ne pas l'annoncer.
Ah ouais?
En se disant de toute manière, on ne sera pas capable de le livrer avant 2 mois, donc autant attendre.
Oui, parce qu'il n'y a pas non plus un public à rassurer comme avec le Mac Pro à l'époque, quoi. C'est pas non plus cette crise-là, on n'est pas là.
Non, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup d'indices qui laissent à penser qu'ils voulaient aller vite dans la transition. Tu commences à
Je suis d'accord.
voir des fonctions qui sont réservées au Mac Apple Silicon. Donc ça y est, ça n'aura pas tardé, hein, mais il y a déjà des fonctions de macOS qui ne seront pas disponibles sur les machines Intel. Donc ouais, je me demande à quel point on se prend pas le retour de la déstabilisation des chaînes de production mondiale, notamment Taïwan en ce moment, c'est très très compliqué. Or, les puces d'Apple sont fabriquées à Taïwan, enfin, en partie à Taïwan. Mais oui, quelque part, c'est fin. Le keynote était déjà très long et très dense, hein, mais quelque part il manque quelque chose. Tu te dis, ah,
On
ça
est
aurait été
d'accord,
bien
ouais.
avec une petite annonce matérielle pour nous montrer comment tout ça fonctionne sur une machine toute neuve.
En fait, j'ai la sensation que j'ai eue en voyant le keynote, c'est qu'au début, ils sont partis très très fort. Ils ont couvert beaucoup de choses en très peu de temps. Et puis au fur et à mesure que ça se déroulait, ils ont passé beaucoup de temps sur des sujets un peu nuls. Du genre. Enfin, il y avait beaucoup de temps sur notamment certaines choses.
Non, mais l'Apple Watch, par exemple.
Oui, oh, mais en plus, tu trouves pas qu'il est malaisant ce mec, Kevin, quand même.
Non, mais alors, je sais que t'as un problème avec Kevin Lynch, je sais aussi que t'as un problème avec tout ce qui touche à la méditation, au bien-être et à la respiration. Mais pareil, je me demande si c'est pas quelque part. Il y a du nouveau matériel qui sort à la rentrée. Et les vraies fonctions de WatchOS 8, 9, 12, 44
8.
dépendent de ce matériel-là. Parce que quelque part, les annonces, elles étaient vides, quoi. Ils ont annoncé un nouveau cadran et un nouveau fond coloré dans l'application Respirer. Donc, bon.
Et à quoi ça servait de passer autant de temps sur Fitness, quoi? C'était super long.
Visiblement, ce service a sa petite popularité aux États-Unis.
Il y a quand même. Enfin, je pense qu'on développera le sujet plus tard, mais. Notamment tout le passage sur santé, mais pendant le keynote, ils ont beaucoup insisté sur santé et sur de partager les données avec la famille, ce genre de choses. Bon, déjà, la porte ouverte à l'abus est grande ouverte. Et enfin, on est déjà dépendant de nos téléphones, tu vois. Là, ça pousse un peu loin quand même. Je sais pas. En fait, ce qui me gêne avec ce genre de choses, c'est que c'est toujours poussé du point de vue de servir une minorité. Enfin, je parle pas d'une minorité absolue. Enfin, c'est vraiment en termes d'utilisateurs, en l'occurrence. Et les gens, par exemple, âgés, les personnes âgées, les personnes ceci, cela, bon. Et c'est vraiment bien que la technologie puisse résoudre des problèmes que des vraies personnes ont. Ça, c'est vraiment génial. Mais dans ce cas-là, pourquoi c'est aussi à disposition des gens qui n'ont pas ces problèmes. Et dans ce cas-là, quel est le phénomène qui se produit? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une atrophie, du coup, entre guillemets, d'une sorte de muscle, puisqu'on a un palliatif à quelque chose qui ne nous manquait pas auparavant, qu'on pouvait faire nous-mêmes, et ce palliatif, en fait, prend la place du muscle qui devait être là, tu vois, et la dépendance se fait sur quelque chose d'externe, tu vois. Je ne sais pas si c'est très articulé comme phrase.
Il y a beaucoup de tu vois.